Il est 6h, très bon réveil. 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 19 juin. Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Michel Platini est sorti de garde à vue peu avant 1h du matin. L'ancien patron de l'UEFA a été interrogé pendant de longues heures dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Le chauffard de Lorient a dormi derrière les barreaux, écroué après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Donald Trump a lancé sa campagne électorale pour 2020 sur un air de déjà vu. Et puis le mondial de foot féminin, nouvelle séance d'entraînement pour les Bleus qui sont arrivés au Havre hier après-midi. Prochain match dimanche, on y revient avec Jérôme Lacroix.
Europe 1.
L'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, est donc ressorti libre de sa garde à vue. Peu avant 1h du matin, il a été entendu pendant 15 heures dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Une audition dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national financier pour examiner donc les conditions dans lesquelles a été attribuée la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Michel Platini a réagi à la sortie de sa garde à vue.
Écoutez, ça a été long. Mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Donc il y a beaucoup de thématiques. Et donc j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. Je devais arriver comme auditeur libre, je suis arrivé, on me met tout de suite en garde à vue. Ça fait mal quoi, hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Mais bon après, ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions, voilà.
Michel Platini au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui, l'ancienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy. Sophie Dion a elle aussi été interrogée, tout comme Claude Guéant, ex-secrétaire général de l'Élysée. Le chauffard de Lorient, arrêté hier dans un hôtel à quelques kilomètres seulement du lieu du drame, a été écroué hier soir, mis en examen notamment pour homicide involontaire. Le jeune homme de 20 ans risque jusqu'à 10 ans de prison. Selon le journal Ouest France, il avait écrit une lettre aux médias pour dire qu'il n'était pas un meurtrier, lettre qu'il n'a jamais envoyé durant ces 9 jours de cavale.
Direction les États-Unis à présent, où Donald Trump repart en campagne.
Oui, le chef de la Maison-Blanche vise la victoire en 2020. 20 000 supporters sont venus l'écouter à Orlando en Floride. Donald Trump qui a ressorti ses thèmes favoris qui lui avaient permis de gagner en 2016. Le reportage du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon.
Avec Donald Trump, le spectacle est toujours garanti. Devant une foule en transe, le président improvise un vote par acclamation.
Are you ready?
Quel slogan choisir pour sa réélection? Faut-il garder celui de 2016?
Make America great again.
Rendre sa grandeur à l'Amérique ou bien passer à
Keep America great.
Conserver la grandeur de l'Amérique. Finalement, ce sera un peu des deux. Mais pour le reste, les 20 000 fans à casquette rouge ont eu droit à un best-of Trump. Toutes les formules qui ont marché en 2016.
Stop illegal immigration.
Un long couplet évidemment sur l'immigration, les médias, fake news et même les attaques répétées contre
Hillary Clinton.
Hillary Clinton, qui n'est pourtant plus l'adversaire. Seule mise à jour dans le discours de Donald Trump, son bilan.
We accomplished more than any other.
Aucun président n'a fait mieux que moi en 2 ans et demi, se vante-t-il.
Our economy is the envy.
Le monde entier nous envie notre économie. Et tout ça sera perdu avec les démocrates, ces gens animés par la haine qui ont voulu effacer votre vote avec l'enquête russe, dit Donald Trump, qui fait tout pour que sa base se sente à nouveau assiégé et donc se mobilise. Il faut un tremblement de terre dans les urnes, le même en fait qu'en 2016. C'est son seul espoir pour être réélu, lui, le président le plus impopulaire de l'histoire. New York, Xavier Yvon, Europe.
À Londres, le député conservateur Boris Johnson a conforté son avance dans la course à la succession de la première ministre britannique Theresa May. Il a terminé largement en tête du deuxième tour du vote, réaffirmant que Londres devait sortir de l'Union européenne. Le procès Balkany place à la défense aujourd'hui. 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt requis à l'encontre du maire de Levallois-Perret. Cet après-midi, ses avocats, dont Maître Dupont-Moretti, vont tenter de lui éviter la prison. Salomé Legrand.
Tout au long du réquisitoire, il a grommelé à intervalles réguliers derrière son client qui faisait de grands noms de la tête. Éric Dupont-Moretti, deuxième vedette de ce procès spectacle suivi par un public chaque jour plus serré sur les bancs, va donc investir le prétoire tout à l'heure pour son monologue final. Si Balkany a reconnu la fraude fiscale, il réfute tout blanchiment, toute corruption. « Je n'ai dépensé que de l'argent familial », martèle depuis le début le maire de Levallois, dont l'avocat va réclamer qu'il ne soit pas cloué au pilori de l'exemplarité. Une plaidoirie périlleuse pour ce ténor, certes surnommé acquittateur, mais qui, au long des 4 semaines d'audience, n'a fait que peu d'interventions sur le fond du dossier. Hier, ses confrères ont techniquement tenté de démonter l'existence d'un quelconque pacte de corruption autour des tours de Levallois, mais ils ont au passage miné la défense de Balkany sur la réelle propriété du riad marocain. Maître Dupond-Moretti qui va en outre devoir trouver une parade à l'arrogance affichée à longueur d'audience par son client.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Enfin, une vente aux enchères particulière ce soir à 19h chez Arcurial.
Oui, celle de la collection intime d'André Malraux, l'écrivain grand amateur d'art. Une centaine d'objets vont être vendus, des livres, des peintures conservés jusqu'ici dans le bureau de sa dernière demeure à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. Diane Chénouda.
C'est la collection d'un passionné d'art, Malraux, ami de Miro, Braque et Picasso. Le commissaire-priseur chez Arcurial, Stéphane Aubert.
Alors il y a une estampe de Picasso pour André Malraux, son ami Picasso, datée 67. On voit bien cette relation très forte qu'avait Malraux avec tous ses artistes. Il parlait même d'une religion, hein. Il était en art comme il était en religion.
Il y a même des caricatures de Picasso signées par Malraux lui-même.
Ici, vous avez Picasso, cette fois-ci, par Malraux. Donc André Malraux était également artiste, ça on le savait un peu moins.
Malraux qui avait aussi une passion pour les arts africains et la peinture haïtienne.
Le dernier voyage d'André Malraux, c'est à Haïti. Et à Haïti, il est ébloui par toutes ces peintures, un peu naïves, hein, mais très colorées. Il est fasciné par ces peintures.
Parmi les plus belles pièces de cette vente, estimées en tout à 200 000 euros.
Diane Chénouda, un reportage qu'Eve Varoc a beaucoup apprécié.
Oui, et surtout beaucoup écouté.
Oui.
C'était le journal...
J'adore quand on parle d'art, c'est tellement
rare. Oui, c'est vrai, vous êtes une passionnée d'art et de Malraux. C'était le journal de Céline Calais.